André Dimboumaï au Kasaï oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. La session ordinaire de mars s'est clôturée les dimanches 15 juin 2014 à Kinshasa. Au regard de la matière à traiter urgemment, certains observateurs plaident déjà pour la convocation d'une session extraordinaire pouvant statuer notamment sur la loi portant modification de la loi électorale. Comment commentez-vous cette actualité et quel bilan faites-vous de la session ordinaire de mars? Vous pouvez participer à cette émission en direct en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net et en nous appelant au 081 890 63 15. Noël Alouzitou réalise cette émission, Jean-Claude Tiala est à la technique, Jirlou Gembo à la coordination et à la présentation de ces programmes supervisés par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi et merci de nous écouter. Nous commençons d'abord par accueillir notre invité Deli Sessanga, député national. Bonjour, monsieur Deli.
Bonjour.
Voilà, la première question, est-ce que dans les contextes politiques actuels, une session parlementaire extraordinaire s'impose-t-elle?
Écoutez, une session extraordinaire pourrait s'imposer au moins pour purger les questions liées au processus électoral. Comme vous le savez, nous avons très peu de temps par rapport aux échéances électorales. Il est bon que les législateurs ne puissent pas se comporter comme lors de la législature de 2006, où nous avons vu que la loi électorale a été finalement adoptée dans les derniers moments et conduit finalement à des précipitations dans l'organisation de scrutins, ce qui a contribué, ce n'est pas la seule raison, mais ce qui a contribué d'une certaine manière au chaos auquel nous avons assisté.
Alors quel bilan faites-vous personnellement, vous en tant que député national, de la session ordinaire de mars, sur le plan production législative et aussi contrôle parlementaire?
Je pense que l'Assemblée nationale, le Parlement dans son ensemble, et sur la question de la production législative, même au-delà de ce que l'on peut espérer d'un Parlement, parce qu'en fait, c'est au gouvernement qui revient en principe la charge première, parce qu'elle a les outils nécessaires de pouvoir confectionner la plupart des lois. Or, je n'ai pas les chiffres, mais je vois à la nature de le rapport entre la production des initiatives, propositions de loi et projets de loi, que les parlementaires en proposent bien plus que le gouvernement. Nous avons assisté, ça pour la première fois au niveau de l'Assemblée nationale, au rejet de 3 projets de loi mal ficelés présentés par la ministre de la Justice, qui ont été recalés, et nous avons vu également qu'au Sénat, une loi aussi provenant du ministre de la ministre de la Justice a dû être rejetée au niveau d'une des commissions permanentes. Donc, au niveau de la production législative, le Parlement s'améliore, mais est à la pointe. En revanche, en ce qui concerne le contrôle, nous avons encore des obstacles psychologiques qui font qu'aujourd'hui, les contrôles parlementaires n'est pas suffisamment utilisé comme cela ça devait être. Et à certains égards, quand on fait une comparaison, quand vous regardez par exemple l'Assemblée nationale à l'époque, le Conseil législatif de la législature de 77 à 82, la législature où étaient les Tshisekedi et les autres, vous verrez que cette législature-là utilisait davantage les moyens de contrôle que nous l'utilisons aujourd'hui. Lorsque vous comparez aussi le Parlement de la transition du 1+4 par rapport au Parlement depuis 2006, vous verrez aussi que la dose de contrôle a considérablement baissé. Je vais donner un exemple précis pour rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez sans doute du rapport Bakandeja à l'époque, qui avait été un rapport fait par une commission, la commission ECOFIN, et de laquelle les autorités, les plus hautes autorités du pays, en avaient tiré des conséquences assez fortes au point de devoir démettre des ministres qui, pourtant, du point de vue de la loi et de la constitution à l'époque, n'étaient pas politiquement responsables devant l'Assemblée nationale. Donc si on prend ça dans une courbe, on verra qu'on a baissé. Et là, il y a des efforts à faire. Il y a sans doute aussi un renouveau qu'il faut avoir au niveau de l'action parlementaire. Comment est-ce qu'on contrôle et comment ça se fait? J'ai l'impression que tous les outils ne sont pas utilisés de manière adéquate.
Voilà, alors, messieurs les députés, nous avions vu les ministres se succéder sur la tribune, soit pour répondre à une question orale, ou soit pour répondre à une interpellation, mais bien souvent sans aucune suite ou effort de la part de membres du gouvernement. Alors, d'ailleurs, dans son discours de clôture de la session ordinaire de mars, le président de l'Assemblée nationale, Obem Minaku, l'a reconnu. Il a même plaidé pour la constitution d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Chambre basse du Parlement. Alors, est-ce que, à votre niveau, vous pouvez nous faire une idée sur la grande faiblesse qui fait qu'aujourd'hui le contrôle ne puisse pas être plus efficace ou ne pas donner des résultats escomptés?
Bon, je pense d'abord que le Parlement doit conquérir encore son autonomie dans ce domaine. C'est que nous fautons à chaque fois que nous considérons que nos camps politiques doivent dicter notre comportement lorsque nous contrôlons les animateurs des institutions publiques. Ça, c'est la première faiblesse. Je crois qu'il y a un problème de formation, un problème de culture politique qui fait qu'aujourd'hui, quand un membre est mené devant l'Assemblée dans le cadre d'une interpellation, d'une commission d'enquête ou quoi que ce soit, les gens ont l'impression que à l'intérieur du Parlement, on doit se retrouver entre ceux qui défendent le ministre ou la personne interpellée coûte que coûte, et d'autres qui ne sont là que pour l'attaquer. Je pense que des parts et d'autres, on doit se dire que nous poursuivons le même intérêt qui est celui de la bonne gouvernance du pays, la bonne gestion des services publics, et que quand il y a pareille question, ce n'est pas de privilégier son camp politique, c'est de privilégier l'intérêt général. C'est donc une sorte de crise morale qu'il y a dans le chef élu lorsque nous abordons ces questions. La deuxième faiblesse qu'il y a, c'est que les outils qui ont été mis à la disposition ne sont pas utilisés de manière rationnelle compte tenu de ce que la manière dont nous abordons, par exemple, les questions orales avec débat, qui devraient être des questions courte et concise. La manière dont on doit aborder les questions d'actualité, qui doivent être des questions spontanées. Les outils que nous avons sont des outils, c'est-à-dire le règlement intérieur et tout ça, sont encore assez lourds pour donner de l'efficacité, de l'efficience du travail parlementaire de ce point de vue. Ça, c'est la deuxième faiblesse. Alors, vous avez une troisième faiblesse qui est rédhibitoire, c'est-à-dire que chacun, que ce soit les membres du gouvernement, les gestionnaires des services publics de l'État, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, on a toujours l'impression que c'est un psychodrame que de pouvoir procéder à un contrôle. Le contrôle est quelque chose de normal. Le contrôle n'a pas que pour mission de sanctionner. Le contrôle doit pouvoir aider notamment les services publics à mieux fonctionner. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la manière dont fonctionnent nos provinces, dont fonctionne
les assemblées,
vous avez une cacophonie terrible, notamment sur le pouvoir qu'exercent les uns les autres. Je vais vous donner un cas. Vous prenez la ville de Kinshasa. On m'a dit que d'autres provinces ont suivi. On a instauré ici une taxe statistique à l'embarquement pour le voyage à l'étranger. Or, quand vous prenez la loi sur la nomenclature, cette taxe ne peut pas être de la compétence
de
la ville de Kinshasa. Mmh. Mais ben on laisse faire. Dans la province du Kasaï occidental, on a vu un gouverneur prendre, détourner une route nationale qui est de la compétence du pouvoir central, parce que la route qui relie une province à l'étranger, c'est une route de la compétence du pouvoir central. Il a détourné la route pour faire un tracé comme s'il en avait la compétence et le pouvoir central ne réagit pas. Lorsque ces questions, on les laisse prospérer ainsi, on installe à la fois l'anarchie et le reste. Donc, il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on dédramatise le contrôle et que ça soit un moment politique pour rappeler les uns aux autres au sens du devoir et à l'efficacité de leur action. Alors, je peux vous démultiplier ce type de cadre. On voit que l'État est en train de dans une situation de dysfonctionnement assez grave dans certains domaines et qui nous pose des réels problèmes. Donc voilà un peu
quelques faiblesses
que nous avons, et je pense que ça ne date pas que de cette législature, ça date de la législature passée. Nous devons corriger.
Voilà, nous avons des auditeurs en ligne. On va rappeler nos moyens de contact, le 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur en ligne qui va ouvrir les débats avec nous. Et nous vous gardons notre invité, monsieur l'honorable Délice Sanga. Franck est à Vienne, en Autriche. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, aussi bonjour à l'invité au studio, à tous les amis avec qui on va s'échanger.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. Comment commentez-vous cette actualité et quel bilan faites-vous de la session ordinaire de mars?
Oui, si nous devons d'abord partir de la vocation de chaque parlement, c'est cette vocation de voter des lois devant régir l'ensemble de l'État, des lois devant régir l'intégralité de l'action du gouvernement. Et alors, à ce niveau-là, je suis d'avis avec lui que toutes les lois sont bonnes dans la mesure où elles doivent répondre aux besoins de la population. Mais par rapport à ce que nous vivons en République démocratique du Congo, je trouve que nous devons aussi maintenant arriver à catégoriser quelles sont maintenant les lois qui doivent être prioritaires par rapport à certaines questions d'actualité, par rapport aux attentes du peuple roi. Et à suivre les débats politiques de chez nous, on se rend compte de l'extérieur que la classe politique ne se met pas encore d'accord sur un sujet. C'est sur la procédure des élections ou bien sur les lois électorales. Personnellement, je trouve que toutes les questions ayant trait à la matière électorale, la loi électorale, devait être prioritaire, car c'est jusqu'ici une question qui ne cesse de diviser les uns et les autres. Alors, si cette loi ne répond pas aux attentes des uns et des autres, la méfiance serait toujours de mise et on risquerait encore de faire des surplaces. Donc, on organise des élections qui sont contestées par les uns, approuvées par les autres et finalement, ça serait un peu du tohu-bohu.
Oui, Franck, donc, Franck, vous êtes favorable pour la convocation d'une session extraordinaire pouvant statuer notamment sur la loi portant modification de la loi électorale.
Oui, si les députés peuvent comprendre que c'est maintenant une chance, ça ne peut pas seulement dépendre de nous autres, mais ça dépend aussi de l'ensemble et de la manière de voir. Pour moi, je trouve que c'est important. C'est important parce que c'est une question très, très sensible. Et nous sommes en train de suivre les débats, vous et nous, vous êtes sur place. De l'extérieur, nous sommes en train de suivre, on se rend compte qu'on va vers une situation assez difficile. Et je crois que si nous aimons tous ce pays, on doit déjà tout faire pour aplanir les vues, de telle sorte qu'il n'y ait plus de contradictions vers la fin. Sinon, on va organiser les élections, mais lesquelles seraient déjà contestées d'avance par... lesquelles seraient déjà acceptées d'avance par. Et tant que la classe politique ne se met pas d'accord sur cette question, je trouve que ça serait difficile. Et encore une autre interpellation, à suivre les argumentations des uns et des autres. On se rend compte que parfois chez nous, les gens pensent bien argumenter, mais ils n'argumentent pas. Pour le bien de la population, chacun argumente pour ses propres calculs. Mais on n'est pas seulement député. Pour soi-même, on est d'abord député parce que on représente un certain pourcentage de la population. Donc, s'il faut argumenter, s'il faut faire priorité à une loi, ça doit aussi vraiment être conforme par rapport aux attentes de la population. Donc ça serait un peu injuste qu'on se serve de cette même population qui vous donne leur suffrage pour se retrouver là-bas, et au lieu maintenant de penser aussi au problème de la même population, on va seulement argumenter pour sa propre poche pour se positionner. Moi, je trouve que c'est mieux de l'inscrire sur l'ordre du jour, mais encore faut-il qu'en argumentant, que les priorités de la nation soient vraiment au centre des échanges des uns et des autres.
Merci beaucoup, Franck. Là, vous avez abordé la question sur votre commentaire sur cette actualité qui, en fait, divise quand même certains parlementaires. Mais quel est le bilan que vous avez fait concrètement sur la session ordinaire de mars en ce qui concerne la production législative et aussi le contrôle parlementaire? Soyez bref.
Oui, je crois que toutes les lois qu'on vote sont bonnes. Encore faut-il que toutes ces lois puissent aussi être appliquées. Le grand problème, c'est qu'on vote des lois qui sont bonnes au niveau de la phraseologie, mais lesquelles souffrent d'une certaine application. Je trouve que les lois votées au Parlement sont bonnes parce que ça répond aux besoins de la population. Alors là, on ne peut pas remettre en question les résultats de toute une session parlementaire en tant que moi. Mais encore faut-il que toutes les lois votées puissent aussi être correctement appliquées. Parce que ça ne suffit pas de voter pour ne pas appliquer. Donc on vote, mais est-ce que toutes ces lois sont-elles appliquées? Je vous retourne sur la balle.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Merci d'être favorable pour la convocation de cette session extraordinaire, dans la mesure où la question sur la loi électorale, selon vous, vaut vraiment son pesant d'or si on veut sauver les échéances électorales à venir. Merci beaucoup, Franck. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Omar.
Bonjour, J.R. Mendembo, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
Voilà, quel est votre point de vue? Franck venait d'être favorable pour la convocation d'une session extraordinaire qui pourrait statuer sur la loi électorale. Et vous, quelle est votre position?
Merci beaucoup, J.R. Diverbe, que vous m'adjudiez. Je voudrais avant tout saluer l'invité qui est M. Delice Sanga, un des grands juristes de ce pays. Vu la complexité du sujet, je voudrais compartimenter mon propos en trois points, à savoir, premièrement, quel est le bilan qu'on peut faire de cette session de mars? Deuxièmement, quelle est la prestation critique que je peux faire de la convocation des sessions extraordinaires? Et je voudrais finir avec quelques recommandations. Abordant rapidement le premier point, M. JR, je pense à mon avis que le bilan de la session de mars est mitigé, dans la mesure où il y a des points qu'on peut apprécier positivement et d'autres négativement. Sur le plan positif, on peut apprécier, n'est-ce pas, et féliciter les députés parlementaires qui ont, n'est-ce pas, voté un arsenal législatif important. Là, je peux citer notamment 12 lois de ratification et certaines lois de révision comme la loi modifiant les codes du travail, la loi modifiant les codes miniers et la loi portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est déplorable sur le plan négatif, c'est que nous remarquons là une certaine complaisance et inefficience dans les contrôles parlementaires. Le rôle du parlementaire n'est pas seulement de voter les lois, c'est aussi de contrôler les actions menées par les gouvernements. C'est ça même la respiration de la démocratie. Mais si vous remarquez, depuis la Constitution de la transition, depuis la première législature de 2006 jusqu'à ces jours, il y a toujours eu des convocations des membres du gouvernement au Parlement, il y a toujours eu des commissions parlementaires qui font des descentes sur terrain, mais hélas, nous remarquons sur terrain qu'aucune sanction exemplaire n'a été aboutie. Si vous interrogez l'histoire politique de la France, vous remarquerez que la fois dernière, lorsqu'on a remarqué M. Jérôme Cahuzac a voulu détourner, le Parlement était sérieux, on l'a fait partir. Mais hélas, nous constatons amèrement que dans notre pays, il y a toujours un contrôle qui n'aboutit à aucune chose.
Oui, mais Omar, comment commentez-vous cet aveu du président de l'Assemblée nationale qui, lors de son discours de clôture de la session ordinaire de mars, a reconnu, en fait, a plaidé pour la constitution d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Chambre basse du Parlement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une question orale avec débat ou encore question d'actualité, il y a toujours des recommandations qui s'en suivent. Ben voilà, qui aujourd'hui ne donnent pas de résultats escomptés.
Ce n'est pas une innovation, JR. Les commissions ont toujours existé, de telles commissions, à l'époque du professeur Bagandeja, à l'époque de M. Gérard Bakajika et d'autres, la commission à Tundula. Les commissions existent toujours, ce n'est pas une innovation. Mais le problème, c'est que le travail qui est fait cette commission, tant en amont qu'en aval, n'a jamais abouti à aucune sanction. Je vous rappelle, lors de la session passée, lors de la législature passée, il y avait un crash d'Antonov, il y avait une commission pareille, mais elle n'a abouti à aucune sanction. C'est une bonne idée de créer des commissions, mais il serait mieux que ceux qui font ces commissions puissent aboutir à des sanctions exemplaires. Je voudrais là aborder le deuxième point par rapport à la session parlementaire extraordinaire. Sur le plan juridique, les problèmes ne se posent pas, car l'article 116 de notre loi fondamentale autorise au Parlement d'initier une telle session. Mais je voudrais maintenant arriver à la modification de la loi électorale qui implique implicitement la révision de la Constitution. Sur le plan juridique, les problèmes ne se posent pas comme je l'ai dit, car je voudrais ici me référer au doyen Louis Favoreux, qui est un grand juriste français, qui disait que le but d'une révision de la loi ou de la Constitution, c'est d'amender ces textes aux réalités politiques actuelles. La première condition, c'est que cette révision doit respecter la procédure prévue par la loi. Mais la deuxième condition essentielle, c'est que toute révision, soit de la Constitution, soit de la loi au niveau interne, doit rencontrer l'assentiment général de toute la population. Il ne suffit pas seulement de dire que la loi a été respectée pour réviser, encore faut-il être sûr que la révision qu'on met menée a rencontré l'assentiment de toute la population. À mon avis, aujourd'hui, personne ne veut qu'on puisse sauter certains articles de la Constitution. Si la révision aborde un aspect que la population accepte, là, les problèmes ne se posent pas. Mais lorsqu'on est sûr que la population n'a pas respecté, moi, je pense que la révision n'est pas opportune. Car une bonne révision ne peut se faire que dans l'intérêt général de la population. Je voudrais citer JR par quelques recommandations. Je voudrais premièrement interpeller nos parlementaires, les rappeler qu'ils sont là pas pour l'intérêt de leur parti politique, mais pour l'intérêt du peuple qui les a élus. Aujourd'hui, nous parlons du professeur Bakandeja. On parle de M. Gérard Bakajika. Si ces gens sont des références, c'est parce qu'ils ont exercé leur mission parlementaire avec sérieux. Un député, pas parce qu'il est de la majorité, il doit tout accepter, ou encore parce qu'il est de l'opposition, il doit dire non à tout. On doit analyser les questions d'État avec intelligence et sérieux, ne viser que l'intérêt général. Deuxièmement, M. J.R., au peuple. J'aime cette maxime de Gandhi qui disait « Un peuple qui se rit de lui-même est un peuple malade. La véritable révolution commence par une prise de conscience. » Il est temps que nous, population, puissions nous lever pour dire non à des choses. Et pour finir, je voudrais interpeller aussi les gouvernements. Il ne suffit pas de mettre en place des lois. Nous en avons aujourd'hui plus de 500. Mais est-ce que la population connaît ces lois? On a beaucoup de lois. Ces lois, nous les mettons parce que nous sommes juristes. D'autres les maîtrisent parce qu'ils sont intéressés à la chose politique. Est-ce que le bas peuple maîtrise les lois que nous votons? La loi est l'expression de la volonté populaire. Elle est faite pour la société. Mais lorsque le membre de cette société ne la connaît pas,
ça devient compliqué. Merci beaucoup.
Qu'on puisse vulgariser en toutes les langues ces lois et que les pouvoirs judiciaires qui ont la mission d'appliquer ces lois puissent les appliquer. Sinon, on serait là comparé à une jungle où les lois existent.
Mais l'application pose problème. Merci beaucoup, merci. Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous retenons que pour vous, les bilans est mitigé. Sur le plan positif, vous avez évoqué quelques productions législatives que vous avez même saluées des deux mains. Sur le plan négatif, vous avez évoqué quelques faiblesses autour du contrôle parlementaire, bien entendu, en évoquant quelques succès qui ont été récoltés dans les législatures passées par rapport aux commissions qui ont travaillé afin de contrôler l'exécutif. En évoquant l'article 116, vous avez eu à survoler les buts même d'une révision d'une loi ou encore d'une constitution et vous avez chuté en donnant quelques recommandations, notamment pour interpeller les députés à pouvoir travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt de tous les Congolais. Merci beaucoup, Maître Omar, d'avoir appelé. Nous allons terminer avec Maître Adrien qui est à Kananga. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo.
Vous avez la parole. Le premier auditeur, Franck, était favorable pour la convocation de cette session extraordinaire. Omar a renchéri pour appuyer également Franck, tout en émettant quelques inquiétudes. Quel est votre point de vue, Maître Adrien?
Merci beaucoup, Gilles. Permettez-moi de commencer d'abord par saluer l'honorable Délice Sanga, qui est, à mon humble avis, l'un des députés congolais pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Je pense, Gilles, je commence d'abord par féliciter Omar qui m'a précédé et mon compatriote Franck. Ils ont totalement raison. J'aimerais aller dans la même logique que Omar pour commencer d'abord présenter qu'à mon humble avis, c'est comme Omar l'a dit, le bilan pour moi est aussi mitigé parce que même l'honorable Sessang l'a reconnu que en ce qui concerne la mission, parce que j'ai toujours dit l'émission principale d'un parlementaire, moi je les catégorise en deux. Donc, les votes des lois et les contrôles parlementaires, ce que j'ai toujours considéré comme une mission primordiale, hein, JR, parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous convaincus, personne ne pourra vraiment me contredire, qu'en ce qui concerne la première mission, les députés le font correctement, ils votent des lois à tout moment. Mais la mission primordiale, à mon humble avis, qui est le contrôle, c'est là que je me dis, il y a tantôt une complaisance, parce que je me dis, il y a certaines décisions importantes qui se prennent avec beaucoup d'état d'âme. Il y a certaines décisions importantes qui se prennent avec beaucoup de légèreté et pourquoi pas avec beaucoup de fanatisme. C'est comme lui-même, l'honorable, venait de les reconnaître. Il a dit que oui, c'est vrai que lorsqu'il y a une interpellation, il y a les uns qui estiment qu'ils doivent défendre celui-là. Il y a aussi les autres qui estiment qu'ils doivent s'attaquer. Mais je pense que, honorable, ce travail ne devrait pas se faire au niveau de l'hémicycle. Ce travail devrait déjà commencer au niveau de la base, donc au niveau des partis politiques, pour que les partis politiques enseigne à ces militants que lorsque vous occupez une certaine responsabilité, vous n'êtes pas là pour défendre votre couleur d'un parti politique X ou Y, mais c'est pour toute une nation. Et c'est pour cela que votre mandat, c'est un mandat national. Donc, JR, en ce qui concerne le deuxième point, l'opportunité ou non
la de convocation,
oui. Oui, de la session extraordinaire. JR, c'est comme Omar l'avait déjà emboîté, donc sur le plan juridique, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais il y a des problèmes sur le plan politique. Hein? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette session extraordinaire, à mon humble avis, doit être consensuelle vu les matières qui sont prévues à l'ordre du jour pour les traiter. Parce que dans ce pays, c'est comme s'il y a ce que j'ai toujours appelé un passage à force pour les uns et au détriment des autres. Or, c'est ces questions qui doivent vraiment intéresser notre nation et surtout l'avenir de notre pays. Lorsque on les traite de la manière dont on les a toujours traités, et plus tard, nous sommes toujours rattrapés par ce qu'avait précédé ce débat-là. Donc sur le plan politique, moi je pense que même actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a les uns qui présentent des craintes, il y a les autres qui estiment à tout prix qu'il faut vraiment convoquer ça. Donc sur le plan juridique, pas de problème, mais le problème se pose sur le plan politique si ils peuvent se mettre d'accord, si chacun d'entre eux pouvait mettre un peu d'eau dans le vin. Oui, comprendre que c'est vraiment l'intérêt de toute une nation et toute la population française croise les doigts pour voir ce qui se passe au niveau de leurs représentants. Ce sera vraiment une très 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 bonne chose. J'aimerais chuter aussi avec
rapidement, un conseil.
Mmh. Avec un conseil GR, surtout en ce qui concerne nos honorables députés de la majorité. C'est vrai, ce n'est pas une critique, mais c'est un conseil. Ils doivent savoir que lorsqu'ils sont en train de siéger au niveau de l'hémicycle, c'est vrai, c'est la majorité qui l'emporte, mais il faut toujours tenir aussi compte de la minorité représentée par l'opposition, parce que ce ne sont pas toujours de mauvaises idées qui sont proposées par les opposants. Il y a aussi des excellentes idées. Si on y prenait garde, ce sera une très bonne chose. À nos amis opposants, ils doivent aussi savoir que ça ne sert à rien de s'opposer pour s'opposer. Là où c'est aussi
une opposition négatif, objective.
Où c'est positif, il faut aussi cheminer ensemble avec nos amis de la majorité. Voilà, Gérard, comment est-ce que je chute avec mon interprétation.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Honorable Délice Sanga, vous êtes en ligne, vous avez suivi cette série des auditeurs, comment vous réagissez?
Mais d'abord, je pense qu'il y a une unanimité de vue sur la faiblesse en matière de contrôle. Ce n'est pas une nouveauté ni une révélation. Le président de l'Assemblée, Obin Minaku, a lui-même reconnu que c'était une dimension qu'il fallait renforcer. Et c'est fort regrettable qu'effectivement, la mission de contrôle, d'application de loi, de contrôle de mode d'exercice de l'autorité publique ne soit pas entrée encore dans nos mœurs. Mais peut-être est-ce un processus et nous ne devons pas nous départir de l'engagement, de la volonté de pouvoir arriver à un objectif. Alors, sur maintenant les questions des fonds telles qu'elles sont soulevées, je pense d'abord à la question électorale. Tout le monde est d'accord qu'il faut que cette question fasse l'objet d'un examen, et le plus vite possible. parce qu'il faut baliser le chemin qui nous mène aux élections. Tout le monde est également d'accord que sur cette question, il faut dépasser les clivages politiques et il faudrait que ça se fasse dans un consensus, c'est-à-dire dans une même vision du pays, parce que ce sont des questions qui sont au fondement du fonctionnement de notre démocratie. Il faut que cette démocratie marche et fonctionne de manière consensuelle, acceptée par tous, pour qu'il y ait un minimum de stabilité. Troisième élément, je crois que, j'ai toujours dit qu'il faut éviter, à travers de lois, de poser des questions qui ne correspondent pas à l'intérêt général ou aux attentes de la population. Une bonne loi est une loi qui répond à une attente. Aujourd'hui, dans la loi électorale, quel est le problème? Parce que dans la loi électorale, il faut prendre, vous avez trois domaines. Vous avez tout ce qui a trait à la préparation des élections, vous avez tout ce qui a trait au mode de scrutin, et vous avez tout ce qui a trait à la proclamation des résultats et à la contestation éventuelle de ceci par la voie judiciaire. Donc, ce que nous parlons, la question de la préparation des élections, il y a un problème, c'est-à-dire que vous avez un fichier électoral aujourd'hui qui est daté et qu'il faut pouvoir le remettre à jour et que la fiabilisation du fichier électoral à laquelle se livre la CENI ne semble pas nous situer dans le correct processus électoral. Est-ce que c'est le processus électoral de 2006 qu'on veut purger, ou est-ce que c'est le processus de 2011 que l'on veut continuer? On ne sait pas dans quoi on est, et cette fiabilisation ne paraît pas suffisante pour assurer la garantie des droits et des citoyens, et on n'a pas besoin d'être ni de la majorité ni de l'opposition pour se rendre compte d'une telle évidence. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui doit pouvoir être traitée, c'est la transparence du scrutin. Lorsque le scrutin se passe, et nous en avons eu à deux reprises, en 2006 et en 2011, nous avons constaté une chose qui mérite d'être corrigée. Entre le déroulement du scrutin, le moment du vote et la proclamation des résultats, notamment au travers des centres de compilation, il y a toute une organisation administrative qui le plus souvent devient une machine de la fraude et ne rend pas contradictoire les résultats et son contrôle, y compris par l'opinion publique et les citoyens qui y ont exercé leurs droits de vote. Donc là aussi, il y a des choses à faire et je dois dire aux auditeurs que moi j'ai déposé une proposition de loi en vue de pouvoir renforcer cette transparence dans le processus électoral depuis 2012. Depuis que nous avons renforcé un problème qui s'était posé, qui était un problème évident.
Oui, alors honorable,
la troisième question,
oui, donc là,
terminé là, c'est oui. Le mode de scrutin. À mon avis, le mode de scrutin qui a été choisi dans un contexte post-conflit, qui est un mode de scrutin proportionnel, dans un pays où on est encore à invoquer la concorde nationale, dans un pays où on évoque encore la cohésion nationale, ce mode de scrutin ne devrait pas être modifié pour permettre à ce que les plus larges franges de l'opinion nationale soient représentées. Et enfin, il y a la question de la responsabilité de la CENI dans le déroulement de ceci, la responsabilité des uns et des autres et les modes de sanction. Parce que ceux qui, en 2011, ont procédé à la fraude, ont organisé celle-ci à l'intérieur même de la CENI, aujourd'hui ne sont toujours pas sanctionnés. Et que ces questions doivent faire l'objet, ce n'est pas seulement le bureau de Ngoï Moulunda qu'il a fallu changer, non. Mais il y a toute une machine électorale qui, d'un certain point de vue, il y a des gens qui se sont rendus
oui, honorable.
Des indélicatesses qu'il faut pouvoir faire. Alors, ces questions doivent faire l'objet d'un consensus et permettre à ce qu'on ait une loi électorale qui balise le chemin vers les élections dans l'acceptation de tous et corrige les erreurs.
Voilà. Alors si je comprends bien, honorable, avant la convocation de cette session extraordinaire, il faudrait déjà que le consensus soit gagné entre les partis de la majorité et de l'opposition sur la question électorale pour permettre à ce que, en fait, cette session soit aussi expéditive.
Mais vous savez, c'est d'une clarté à crever les yeux. La loi électorale, le mode de scrutin, le mode d'évolution de pouvoir, qui dirige dans le pays et comment on y accède, sont des questions qui ne concernent pas un groupe politique, sont des questions qui concernent la nation
dans son entièreté. Et si on veut que notre démocratie soit une démocratie à la fois apaisée, stable, ces questions-là doivent faire l'objet, comme dans toutes les grandes démocraties,
d'un consensus
entre les acteurs politiques.
Voilà.
Sinon, on en fait des questions partisanes et c'est ça qui nous amène au devant du problème. Je pense que sur ces questions-là, ainsi que nous en avons parlé d'ailleurs au moment des concertations nationales et que même les acteurs qui n'ont pas participé aux concertations nationales seront d'accord avec nous, que c'est une question sur laquelle on doit pouvoir se mettre d'accord en toute responsabilité, savoir comment notre démocratie fonctionne et respire. Il faut éviter, et le travers qu'il faudrait éviter, c'est d'en faire une question partisane.
Voilà.
J'espère donc que le temps qui nous sépare des échéances électorales reste en cours. Il faut que ces lois puissent faire l'objet d'une délibération rapide. Afin de permettre à ce que la CENI sorte un calendrier qui ait du sens, pas un calendrier qui sort et qui est en inadéquation avec un certain nombre de paramètres politiques et notamment législatifs. Donc il faut que ceci fasse l'objet, à mon
sens, comme vous l'avez dit.
On ne peut pas appeler en même temps, si vous voulez, à la cohésion nationale, à la concorde intérieure, considérer que c'est un impératif pour la bonne marche du pays, et considérer que des questions aussi essentielles doivent être abordées comme étant des questions partisanes.
Voilà, honorable Deli Sesanga, on va repasser à nouveau de notre côté standard. Maître Sonzil est à Lubumbashi. Bonjour maître.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui maître,
à l'honorable Deli Sesanga.
Voilà, êtes-vous favorable qu'il faille donc accorder le bénéfice de l'urgence à la convocation donc de cette session extraordinaire pouvant statuer sur la loi électorale, disons la loi portant modification de la loi électorale?
Monsieur J.R., si cette convocation de la session ordinaire est pour l'intérêt de la population et pour que ça amène la cohésion nationale et que ça amène aussi une certaine entente au sein de la classe politique, même au sein de la population, là je suis favorable. Mais au cas contraire, si cette session, la convocation de cette session ordinaire cache un peu des agendas cachés, je m'excuse de la tautologie, soit qu'il y a un guise sur os, là, je ne veux pas accepter, je ne suis pas favorable à cela. Pourquoi j'ai dit ça, M. J.R.? Parce que nous savons qu'on peut toujours réviser la Constitution à la veille des élections. Vous savez qu'en 2011, M. J.R., il y a eu une crise post-électorale. Il a fallu qu'il y ait des interventions par-ci, par-là, des organismes internationaux, des gouvernements, tout ça. Vous savez là où notre pays est traîné jusqu'à présent. Mais nous parler encore de cette révision constitutionnelle en ce qui concerne les modes de scrutin, soit suffrage universel indirect pour les députés provinciaux, j'estime que c'est favoriser le clientélisme. Est-ce que ceux-là qui seront choisis à ce niveau-là seront vraiment l'émanation de la population? Ça, je ne sais pas.
Oui, mais parce qu'on y est déjà. Maître Sosie, parce qu'on y est, la loi, en fait, la modification de quelques articles de la loi portant, disons, organisation des élections en RDC, disons, c'est déjà, disons, arrêté par le gouvernement. Voilà. Donc, je crois que maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse un peu comment les choses doivent se faire. C'est pourquoi nous avons dit, il y a un camp qui estime qu'en ce moment, il faut vraiment accorder le bénéfice de l'urgence à la convocation d'une session extraordinaire pouvant statuer cette question. Et il y a d'autres, par contre, qui estiment que ce n'est pas nécessaire. Mais on ne peut pas aller aux élections sans passer par cette étape, Maître Tonsozil.
Oui, j'estime que l'appréciation est tout à fait mitigée. J'estime que pour aller aux élections, comme le gouvernement a déjà dit ce qu'il a dit, il y a des projets de loi qui doivent être révisés au niveau du Parlement. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse dans cette révision-là. Et je me répète encore, M. Gilles, j'avais dit qu'il faut qu'il y ait l'intérêt de la population là-bas et l'intérêt de tout un gouvernement. Pourquoi je dis ça, M. Gilles? C'est bien beau de préconiser la révision de certaines lois, mais pour l'intérêt de qui? Pour moi, il faudrait qu'il y ait d'abord, si cette révision est possible, il faudrait qu'il y ait quand même un certain consensus au niveau national. Parce que après juste la décision du gouvernement de faire réviser quelques articles, il y a eu des voix qui se sont levées. Il y a eu des voix de l'opposition, des sociétés civiles qui se sont levées. Tout ça, c'est pour qu'il y ait consensus. Mais si on y va par force, pour favoriser tel ou tel camp. Là, j'estime que ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Et j'estime que, pour moi, c'est inopportun, ce serait inopportun de passer à la révision de cette constitution, de certaines lois de la constitution. Quand de même, sous le plan juridique, c'est faisable, mais il faut aussi se contenter du social de la population. Il faut se contenter aussi du vouloir aussi des autres. J'estime que la majorité qui est au niveau du Parlement, c'est une majorité parlementaire, mais il y a lui aussi une minorité au niveau du Parlement qui représente la majorité de la population. On ne peut pas se leurrer, M. JR. Et toutes les décisions qui sont prises là-bas, il faut que ça se conforme quand même à la volonté de la population. Moi, j'aimerais que, pour les élections de 2016, qu'il n'y ait plus encore des contestations. Nous avons besoin que notre pays puisse redécoller. Comment ce pays peut redécoller? C'est lorsqu'on mettra tout en œuvre pour l'intérêt seulement.
Alors, le deuxième volet de notre débat, quel bilan vous faites concrètement de la session ordinaire de mars? Sur le plan production législative, oui.
Monsieur Gilles, en ce qui concerne les prérogatives dévolues à l'Assemblée nationale, ils ont fait leur travail, ils ont édité des lois, mais en ce qui concerne maintenant les contrôles du gouvernement, à ce niveau-là, je ne suis pas un peu convaincu de la manière dont se procède ce contrôle du gouvernement. Puisque vous savez que nous avons une majorité au niveau du Parlement, lorsqu'on prend des lois, lorsqu'on interpelle un ministre, soit par question orale avec débat, ou soit par interpellation, comme je le répète encore, est-ce que les mesures prises sont d'application, ou soit il y a une certaine complaisance dans les chefs des parlementaires qui siègent au niveau de l'Assemblée?
Oui, je crois que tout le monde est d'accord. Maître Sosil, à ce niveau, tout le monde est d'accord. Je crois que le discours même du président de l'Assemblée nationale est clair là-dessus pour, au fait, demander qu'il y ait une commission chargée du suivi des recommandations de la Chambre basse du Parlement, ce qui veut dire qu'il y a déjà un aveu de faiblesse autour de ces contrôles parlementaires. Donc je crois qu'on ne peut même plus y revenir, le fait que déjà il y a une commission qui va maintenant statuer sur le suivi de recommandations, de prise de décisions par rapport au contrôle. Je crois que c'est déjà une bonne chose que nous devons tous saluer. Merci beaucoup. Hein. On va prendre Martinez qui est à Goma. Martinez, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité.
Voilà, vous avez la parole. Votre point de vue, êtes-vous favorable comme vos prédécesseurs sur la convocation d'une session extraordinaire pouvant statuer notamment sur la loi portant modification de la loi électorale? Et en deuxième volet, quel est le bilan que vous allez faire de la session ordinaire de mars?
Avec pour la première question, je commence par dire non. C'est que je suis bien honorable, j'ai déjà cité Sodo à une radio de Kinshasa à la RTGA. Qui parlait des choses compliquées là-bas. Et j'ai compris que si encore on accepte assez qu'il y ait encore une session ordinaire, une session
extraordinaire,
une session extraordinaire, là encore, on risque de tailler cette loi à une mesure d'une seule personne ou d'un seul groupe de personnes. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour le bilan, moi, je vois que le bilan n'est pas bien. Il n'est pas bon vraiment. Il est mitigé. Pourquoi je dis ça? Moi, je pense que le Parlement, selon moi, doit jouer trois rôles. Le premier rôle, c'est le vote de loi. Le deuxième rôle, c'est le contrôle de l'exécutif. Et le troisième rôle, c'est la restitution à la base, selon moi. Mais pour le premier, je vois que bien, il vote des lois. Malheureusement, que ça fait déjà toute une litanie de lois, et même les honorables députés. Peut-être si vous le demandez quelles sont les lois qui ont été votées, ils se retrouvent plutôt qu'ils ont déjà voté plusieurs lois dont il n'y a pas d'exécution. D'abord, nous disons félicitations pour ça. Autre chose, pour le contrôle, j'ai remarqué que la majorité et l'opposition qui sont aujourd'hui au Parlement, ils nous amènent encore à la Deuxième République. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de voir que, comme ils sont partis aux institutions là-bas, ils ne veulent plus retourner à la base en disant que les autres partent là les remplacer.
Mais je crois qu'il y a quand même ce que nous appelons les vacances parlementaires. Et maintenant qu'on vient de clôturer la session, les parlementaires sont censés être déjà en vacances parlementaires, raison pour laquelle, avant d'y aller, on veut convoquer cette session extraordinaire afin de statuer sur la question relative à la modification, disons, la modification de la loi électorale, Martinez.
Non. Pour ça, je ne suis pas d'accord parce qu'ils ont taillé, ils vont tailler cette loi sur mesure. Et pourquoi je préfère à ceux qui utilisent encore la loi là de 2006. Pour continuer, je voulais dire, ils nous amènent à la Deuxième République. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent à ceux qui ne puissent pas rentrer. Rentrer dans quel sens? Laisser les places au Parlement pour d'autres. Ils préfèrent toujours rester là-bas en train de protéger leur famille politique en oubliant nous qui les avons envoyés là-bas. Et pour la troisième chose, je voulais dire, ce qu'ils doivent savoir est que jusque-là, nous ne connaissons pas encore les articles, moi personnellement, de mes élus, je ne connais pas encore les articles de la Constitution qui ont été modifiés. Ils sont là à Kinshasa, après ils viendront, nous allons les voir circuler avec des drapelés, et puis ils vont partir sans nous restituer ce qu'ils ont voté comme loi. Tout ça, c'est...
Voilà, je crois que Omar était clair là-dessus. Il faut un éveil de conscience lors des vacances parlementaires. Il faut que la population soit aussi exigeante vis-à-vis de leurs élus, et leur demander de la réduction des comptes. Donc en fait, parce qu'ils sont rédévables, ils doivent faire la restitution. Je crois que à un certain niveau de choses, il faudrait quand même qu'au niveau de la population, qu'on puisse aussi se mettre autour du même table avec les élus du coin pour en fait avoir de se faire une idée sur ce qui a été le bilan ou l'évolution de cette session qui vient de se terminer. Merci beaucoup, Martinez. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Bienvenue à vous, monsieur l'honorable Denis Sessanga. Vous avez suivi cette série des auditeurs. Comment vous réagissez avant que nous vous posions une question des relances?
Oui, vous savez, il y a une méfiance de plus en plus qui s'installe dans la population parce que elle a beaucoup déchanté par rapport au processus démocratique et l'absence de sanctions, l'amélioration des conditions des démocratiques. On entend même dans les interventions le vote des lois. Ce n'est pas dit clairement, mais c'est entre les lignes, le fait que c'est une loi, c'est pas une condition de vie de la population. C'est-à-dire que leur application et les résultats qui en sont escomptés ne soient pas atteints est un élément de la décrédibilisation de la classe politique et un élément de méfiance. C'est ce que l'on dit. Et le dernier auditeur, Martinez, vous dit effectivement
que... Voilà, on a des petits soucis, on a des petits soucis avec votre ligne honorable. Voilà, raison pour laquelle on demande toujours à nos invités d'être dans le studio, parce que là, finalement, vous dites des bonnes choses et vous sortez entrecoupé. Je ne sais pas si vous êtes peut-être dans une maison, il y a peut-être d'échanger un peu de position pour permettre à ce que, voilà, la communication soit un peu, pour que la communication soit un peu fluide, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, monsieur l'honorable.
Là, vous me captez.
Voilà, ça va plus ou moins.
Oui. Donc, je disais que c'est que il y a une sorte de méfiance qui s'installe entre la classe politique et la population, parce que pour deux raisons. D'abord, on a l'impression que les sanctions ne suivent pas, et donc l'amélioration des services qui leur sont rendus ne sera jamais au rendez-vous. Et deuxièmement, ils ont l'impression aussi que ces lois que nous votons n'étant pas appliqués et les parlements ne suivant pas leur application par des mécanismes de contrôle, ne changent pas leur existence. Et donc, du coup, ils se méfient de la classe politique. Ils ont l'impression que c'est une classe politique qui fonctionne sur elle-même. Et ça nous amène à une crise institutionnelle qui risque d'aller croissante. Deuxième élément, c'est le fait que le dernier auditeur, Martinez, dise que le vote de loi, notamment la loi électorale, peut être orienté pour que les députés restent en fonction. Non, ça peut être vu comme cela, mais l'objectif n'est pas de maintenir les députés en fonction, encore que, de ce point de vue, je pense que l'apprentissage du travail parlementaire, si nous voulons demain avoir des parlementaires solides, qui aient le courage et la volonté de faire le contrôle, je crois que c'est dans la stabilité d'une partie importante des parlementaires qu'on va l'obtenir et non pas dans le changement radical. Vous savez, moins de 10% des parlementaires reviennent d'une législature à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux qui viennent doivent apprendre, connaître les ficelles des couloirs du Parlement, comment ça se passe et comment ça s'avance. Et c'est ces nouveaux qui apprennent, passent 2-3 ans, ça dépend des capacités des uns des autres à apprendre, et à la fin, ils sont moins efficaces pour la vie de la nation que ceux qui restent. Et dans beaucoup de pays, vous avez le Parlement qui change, qui peut changer de couleur politique. Mais les élus sont souvent les mêmes qui reviennent parce qu'ils connaissent les processus, ils savent comment agir et faire avancer le pays. Je pense que ça, c'est un élément important. Et je suis content que tout le monde, aujourd'hui,
dans son intervention, considère que s'il y a modification de la loi électorale, cela doit se faire dans le consensus. La méfiance que les uns ont en la voix de la classe politique ne doit pas nous amener à nier la nécessité qu'il y a et l'urgence qu'il y a à modifier la loi électorale aujourd'hui pour baliser le chemin de l'avenir, éviter les problèmes de demain.
Voilà, alors il y a pas mal d'auditeurs qui nous ont envoyé leurs messages sur notre page Facebook. C'est vrai, il y a pas mal d'inquiétudes également. Nous allons peut-être vous révéler un auditeur Massamba de Bukavu qui dit ceci, pour moi le bilan est mitigé. Si je prends juste le point de contrôle parlementaire, nous avons tous suivi, il y a eu des ministres qui se sont succédé. Il y a un parmi ces ministres qui a été hué même par les députés, mais finalement, il n'y a pas eu de suivi, il n'a pas été sanctionné et n'a même pas pu, en tout cas honnêtement, démissionner. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Que monsieur l'invité nous éclaire là-dessus. Monsieur Delis Sanga, parce qu'il s'agit là d'une question directe, comment vous réagissez?
Écoutez, il y a une majorité à l'Assemblée, il y a des règles. Pour qu'un ministre puisse tomber, il y a des procédures. C'est une interpellation, c'est une mise en cause par une défiance, et la défiance, elle est votée par la majorité, par principe. Lorsque la majorité fait bloc pour défendre les ministres, y compris lorsqu'il est en indélicatesse, rien ne peut être entrepris. C'est de la responsabilité politique de la majorité, et il revient aux citoyens que vous êtes dans vos circonscriptions lorsque les députés reviennent et qu'ils sont de la majorité, de leur poser la question pourquoi, en pareille circonstance, vous n'avez pas sanctionné, parce que pour vous, c'était important. Cet échange doit avoir lieu aussi, au lieu simplement de regarder ces élus quand ils reviennent, de leur demander à la fois de l'argent,
du câble, du courant. Tout
cela. Il faut poser des vrais problèmes en termes de choix politiques. Il y a la responsabilité des élus, mais il y a aussi la responsabilité de la population qui doit faire sentir sur les élus cette pression, cette exigence de la sanction. Et il faut que les gens l'entendent, parce que pour nous de l'opposition, nous le faisons, nous votons contre. Mais, hélas, ce n'est pas toujours le cas. Mais j'aurais souhaité aussi que les auditeurs puissent relever que, par exemple, c'était une première de pas des moindres, la ministre de la Justice est venue présenter des projets de loi que l'Assemblée a pu rejeter, et on a vu des députés
à l'unanimité, majorité, tout comme pour
et de l'opposition contre, voter contre. C'est le début. Ils sont timides, sans doute. On voudrait avoir plus, moi le premier. Et si vous voulez me faire dire aujourd'hui que le contrôle n'est pas fait, parce que le président de l'Assemblée lui-même l'a dit, je vous dis que le contrôle n'est pas suffisamment organisé et ça doit être amélioré. Et
voilà, si vous permettez. Voilà, si vous permettez, honorable, on va prendre juste les deux derniers auditeurs et puis on va conclure avec vous en une minute. Laurent, vous êtes à Kinshasa. Roger, vous êtes également dans la même ville. Vous demanderez d'être un peu précis parce que les temps nous talonnent. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur JR.
Quel est le bilan que vous faites de la session?
Pour moi, le bilan de l'Assemblée nationale est très négatif. Je dis négatif pourquoi? Parce que ça n'a rien changé du passé. Ça n'a rien changé du passé parce que nous avons des lois dans ce pays. On ne peut pas comprendre que on peut interpeller un ministre pour des détournements et consorts.
Voilà, vos prédécesseurs l'ont.
Au niveau de l'Assemblée,
voilà, Laurent,
pourquoi n'est pas informé le procureur général de la République, la Cour suprême de justice, et lui transmettre l'ensemble des documents, parce que la loi elle-même détermine la sanction, même à qui qu'elle soit. Pourquoi même les chefs de l'État, il y a la loi aussi qui fait les sanctionner, mais pourquoi pas les ministres ou les ADG qui font des détournements? Mais ça se limite seulement au niveau de l'Assemblée, toutes les informations se cachent.
Voilà, merci beaucoup.
Nous autres, nous voyons que c'est toujours un grand négatif, ça ne change pas des autres assemblées nationales.
Merci beaucoup, Laurent. On va prendre Roger qui est toujours dans la même ville, province de Kinshasa. Roger, bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour.
Vous avez également 45 secondes, soyez précis et concis.
Oui, je suis précis, malheureusement que je suis tombé en retard. Voilà, je vais intervenir pour dire ceci. Le bilan est vraiment mitigé. Mais dans cela, je vais déplorer quelque chose. Dans notre pays, nous arrivons à un système où les dirigeants qui doivent prendre des décisions et diriger sont là seulement à dénoncer. Je ne peux pas acclamer le président de l'Assemblée nationale tant qu'il dit qu'il faut mettre une commission en place. Pourquoi il ne l'avait pas directement fait? Donc, l'Assemblée, pour nous, c'est une marionnette du gouvernement. Et c'est une sorte de la dictature qu'ils aiment ça. Les trois pouvoirs ne sont pas respectés. Or, l'Assemblée doit s'imposer comme l'Assemblée. On ne le constate pas. Nous leur demandons.
Voilà, merci beaucoup Roger d'avoir appelé de Kinshasa. Dommage, on n'a plus assez de temps. On revient à vous, notre invité, honorable Délice Sanga. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au bilan et par rapport à l'actualité qui veut qu'on puisse convoquer une session extraordinaire pouvant statuer sur la modification de la loi électorale?
En un mot, je crois que la population exprime de plus en plus de la méfiance à l'endroit des institutions, c'est pas que l'Assemblée nationale. L'auditeur précédent vous parlait de transmettre le dossier au parquet, mais vous savez, le parquet n'a pas besoin que l'Assemblée lui transmette le dossier pour se saisir des questions de ce pays. Je veux dire que les institutions dans leur ensemble n'exercent pas correctement leur mission, et l'Assemblée comme mécanisme de régulation et de contrôle devrait user davantage de ce pouvoir pour améliorer le fonctionnement des services, pour pouvoir sanctionner et proposer des pistes et des solutions afin que les lois que nous prenons répondent aux attentes de la population. Concernant la loi électorale, je pense qu'il y a une urgence absolue que cette loi puisse être adoptée dans les délais raisonnables afin de permettre à ce que la CENI ne puisse pas aller aux élections dans la précipitation. Je rappelle que l'une des causes pour lesquelles les processus de 2011 étaient bâclés, c'est bien parce que nous avons adopté en retard la loi électorale. Et moi, en ce qui me concerne comme élu, j'ai déposé une loi modifiant la loi électorale depuis 2012 et qui tire les conclusions.
Voilà, c'est par là qu'on va.
Donc, il faut y aller et je voudrais convaincre nos compatriotes que le.
Voilà, dommage, on va s'arrêter là, honorable Délice Sanga. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, merci d'avoir accepté de débattre avec les auditeurs par rapport à cette thématique. On dit également merci à Jean-Claude Anciala qui était à la technique, une émission qui a été réalisée par Noëlla Lousitou, présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. On se retrouve demain pour un autre numéro.